votre nouvelle vie était en Lozère.
Une émission de 48 FM depuis la tournée estivale Lozère Nouvelle Vie.
Bonjour à tous, chers auditeurs de 48 FM, de Radio Bartas et de Radio Margeride. Une émission donc qui vous est proposée par 48 FM depuis aujourd'hui le pont de Montvert. Et cette carte postale, ce début d'émission, a une invitée tout à fait particulière aujourd'hui. Bonjour Madame Pantel.
Bonjour.
Alors voilà, c'est la première fois que vous venez sur cette tournée Lozère Nouvelle Vie, que vous nous rejoignez à la fin d'une première semaine. Quels étaient pour vous un peu les enjeux qui ont conduit à mettre en place cette action autour de l'accueil, de l'attractivité du département ?
Alors, le département de la Lozère doit faire face à un véritable enjeu démographique, puisque nous sommes à la fin là, du recensement de la part de l'INSEE des différentes populations dans les différentes communes, et on s'aperçoit que sur certains secteurs, il y a de la stagnation, voire de la baisse. Et c'est vrai que nous sommes très inquiets sur le recollement qui aura lieu début 2016. Et le département s'est lancé dans une politique active en faveur du maintien et de l'accueil de nouvelles populations. Et c'est vraiment essentiel dans un département comme le nôtre, si on veut permettre d'avoir un seuil minimum de population qui permette de garder nos services publics, mais aussi d'être suffisamment attractif, y compris pour accueillir des entreprises et développer toutes les filières sur notre département.
Donc cet été, une tournée Lozère Nouvelle Vie qui va parcourir le département et présenter un certain nombre de choses. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, alors c'est vrai que cette politique, elle se structure avec les territoires. Le département se veut chef de file et dans ce cadre-là a déposé un dossier dans le cadre de l'appel à projet accueil de nouvelles populations donc au Massif Central. Mais pour autant, on va travailler donc avec les GAL, donc avec un programme départemental. Les différents GAL et différents territoires vont nous accompagner à leur niveau. Et puis, il peut même y avoir un engagement très fort de la part des communes qui souhaiteraient créer des comités locaux d'accueil également. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est à chaque niveau et que tout le monde a sa place et sa pierre à apporter à l'édifice. Alors, plus spécifiquement sur cette tournée, l'idée, c'était d'aller à la rencontre en fait des touristes. Alors d'abord des Lozériens pour continuer à les sensibiliser à cet enjeu qui est important, mais aussi à la rencontre des touristes parce qu'on s'est rendu compte que celles et ceux qui faisaient le choix de vie, de venir s'installer, de quitter l'urbain, de venir en milieu rural, c'était souvent après une découverte de notre territoire pour des vacances. Et ils avaient un coup de cœur et l'idée germait de venir s'installer. Donc dans un premier temps, pour cette année, on a décidé donc de faire le tour de toutes les grandes et les grosses manifestations du département. Mais l'idée après, c'est de sortir du département et d'aller vers les villes dans un rayon de 3 heures autour de la Lozère et d'essayer aussi de rencontrer le maximum de futurs habitants du département de la Lozère.
Voilà le programme pour les années futures.
Voilà, le programme est tracé pour les 6 années.
Voilà, donc c'est un sujet, j'imagine, qu'on retrouvera bien entendu. Il y a d'autres événements en préparation aussi.
Oui, parce que dans notre plan d'action, alors ça c'est vrai que c'est le côté un peu communication que l'on voit, mais il y a tout un travail de fond qui est réalisé tout au long de l'année par les agents du département, avec le recensement des offres, un travail sur les logements, sur les offres d'emploi, on va accueillir certainement l'université rurale de l'accueil l'année prochaine en Lozère. Enfin voilà, il y a toute une dynamique, mais on aura l'occasion d'y revenir.
Voilà. Un épisode aussi de la Start-up est dans le pré.
Oui, bientôt au mois de septembre. Voilà.
Donc un certain nombre d'événements qui vont aussi montrer toute cette capacité d'accueil et de possibilité de faire des projets en Lozère.
Voilà, tous ces événements concourent au même objectif.
Bien, alors aujourd'hui dans cette émission, nous aurons trois parties comme d'habitude. Une première partie où on va parler de l'événement qui nous accueille aujourd'hui. Et donc Josiane Dulac nous a rejoint sur cette table. Et donc on va pouvoir parler justement de ce festival qui nous accueille. On retrouvera également deuxième partie une ambassadrice. Alors le témoignage, on l'a enregistré hier à Florac et c'est Pierrette Agulon qui nous livrera son témoignage de vie et de développement de projet en Lozère. Et cette émission se terminera avec normalement une dégustation de miel issu de Ruchetron. Alors on attend Yves Ely normalement pour la fin de l'émission. Alors voilà, c'est parti. On retrouve Madame Pantel et Madame Dulac juste après ce petit jingle.
Il vous propose des activités pendant vos vacances.
Écoutez bien, on va peut-être parler de ce que vous allez faire ce soir ou demain.
Première partie de cette émission, donc autour de cet événement qui est la 7e édition du Festival des métiers d'art en Cévennes. Donc bonjour Madame Dulac.
Bonjour.
Alors voilà, on va se rapprocher un petit peu du micro parce que comme il y a un peu de vent autour, ce sera mieux. Alors, peut-être vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce festival, comment vous en êtes arrivé à une 7e édition et puis qu'est-ce que vous nous proposez pendant ces 3 jours ici au Pont de Montvert.
Bonjour. La première édition fut un challenge avec Sophie Pantel, qui était conseillère générale et maire du Pont de Montvert à l'époque. Et nous avons décidé un soir peut-être d'animer la rue du Pont de Montvert ou encore mieux de faire un festival. Nous avions en même temps rencontré les Italiens de l'association Art in Fiera à Saint-Sébastien de Couronne, avec qui nous avons créé un partenariat. Et depuis 7 ans, ils viennent au Pont de Montvert pour le festival et nous allons chez eux à Saint-Sébastien de Couronne dans le Piémont.
Et alors, ces artisans d'art que vous recevez ici, ils sont lausériens, peut-être certains, non ? Même pas ?
Ils sont en minorité presque, j'allais dire, sur ce festival-là lausérien. Nous recevons environ maintenant 400 dossiers.
Voilà, il y a une sélection.
Voilà, il y a une sélection. Nous en retenons 65 et en plus une dizaine d'Italiens. Mais nous ne faisons pas la sélection sur les Italiens. C'est l'association italienne qui s'occupe de ça. Voilà.
Et alors, le Pont de Montvert, c'est un petit village. Il n'y a pas de grande salle d'exposition. Alors, comment ça se met en place un festival comme ça avec 65 exposants dans un village ?
Nous avons eu la chance de pouvoir partager ce projet avec les habitants du village qui ont bien voulu nous prêter leur cave, le rez-de-chaussée de leur maison, leur garage ou leur ancienne boutique. Et donc chaque artisan a un lieu chez un habitant qui le reçoit complètement gratuitement et généreusement.
Il l'héberge aussi ou...
Non, il ne l'héberge pas. L'hébergement est pris en charge par la mairie du Pont de Montvert, soit au gîte communal, soit au camping, soit chez quelques particuliers.
Alors c'est donc tout le village finalement qui se mobilise pour ce festival.
Oui, c'est tout le village qui se mobilise pour ce festival, aussi bien les commerçants qui nous aident aussi à financer ce festival que les habitants qui nous prêtent leur lieu gratuitement.
Alors, donc on peut le parcours du festivalier classique, c'est de venir, de déambuler, d'aller dans différents, donc justement de rentrer dans différents lieux et d'aller voir un peu les créations qui existent.
Oui, c'est de déambuler, c'est surtout aussi de découvrir des lieux du Pont de Montvert insolites qu'on ne voit pas toute l'année parce qu'ils sont fermés. Puisqu'ils appartiennent à des particuliers, et de découvrir aussi toutes les ruelles du village et de ne pas simplement fonctionner sur le quai et la rue centrale.
Alors, quai et rue centrale où nous sommes aujourd'hui, mais voilà, vous pouvez venir nous voir et puis aussi aller voir des rues plus petites et d'aller découvrir des pépites qui
et
s'y cachent.
Je voulais dire que cette année, la marraine du festival était Carolo. Carolo est une jeune femme qui sculpte la bouse de vache, qui a eu une grosse émission sur Arte il y a 6 mois. Et c'était aussi un clin d'œil au territoire et en particulier aux agriculteurs de ce territoire pour aussi faire du lien sur ce territoire. Voilà.
Ah, c'est effectivement assez original. Alors donc, on voit des créations. Est-ce qu'on peut aussi un petit peu l'expérimenter pendant ce festival ?
Vas-y, choisis. Oui, allez, je prends le relais. Alors, je crois que ce qui est important... Je vais vous répondre sur les ateliers après, mais ce qui est important, c'est de rappeler ce concept, c'est ce qui fait la force de ce festival. C'est-à-dire que La première année, ce qui était pour nous une difficulté, puisque nous n'avions pas les infrastructures nécessaires pour organiser, en fait, on en a fait une force et un atout, puisque à l'époque, donc, j'étais maire et j'avais écrit à tous les habitants en leur demandant de nous prêter des lieux, mais on a fait ça sans douter, en fait, que ça allait fonctionner aussi bien. Et puis, chaque année, on en a récupéré de nouveau. Alors là, c'est vrai que maintenant, on a atteint un seuil où c'est plus compliqué, parce qu'on a à peu près mobilisé tout ce qui pouvait l'être. Et donc, on a un problème donc, pour pouvoir accueillir de nouveaux artisans et on est obligé de se limiter. Après, je crois que le deuxième argument qui fait que on connaît ce succès pour ce festival, c'est la volonté de l'équipe, hein, de l'Association des métiers d'art en Cévennes, qui est quand même la cheville ouvrière. Il y a une co-organisation avec la mairie du Pont, mais s'ils n'avaient pas été là, la mairie du Pont toute seule ne pouvait pas le faire, parce qu'il y a quand même des savoir-faire, des réseaux qui sont mobilisés et qui ne sont pas ceux des élus, évidemment, mais bien des réseaux professionnels. Et ce qui fait la force du festival, c'est que nous avons tout. D'abord, il y a eu un cahier des charges, immédiatement, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas que ça devienne un marché. Enfin, c'est très bien, hein, les marchés artisanaux, mais en fait, c'était autre chose qu'on visait. C'était vraiment d'avoir des artisans ou des artistes, hein, parce que tout le monde n'a pas forcément le statut d'artisan d'art, là, mais on peut travailler dans le domaine des métiers d'art sans avoir ce statut-là, et de pouvoir mettre en avant ses savoir-faire. Et justement, ces artistes, hein, et toutes ces personnes, ce qu'elles apprécient beaucoup, c'est échanger sur ces savoir-faire, c'est partager. Et donc les ateliers dont vous parliez à l'instant, c'est typiquement au-delà des échanges, hein, dans les différentes boutiques. C'est ce qui fait aussi le charme et je crois qu'il est important dans le cadre du lien social autour de cette manifestation.
Et est-ce que les artistes échangent entre eux aussi ou...
Oui, alors justement, ce qui est quand même bien, c'est qu'après, on s'aperçoit après des festivals que certains artistes se sont rencontrés. Après, ils vont partir faire une résidence d'artistes ensemble ou ils vont partir exposer ensemble. Du coup, ils vont mélanger les matières, ils vont mélanger les techniques. Donc, d'ailleurs, ici, la MAC avait organisé, il y a 2 ans, une très grosse résidence d'artistes avec des Japonais qu'on avait accueillis sur le festival, avec des Islandais. Enfin, voilà, donc, ça fait aussi partie, c'est aussi un lieu de rencontre professionnelle pour tous les artisans et les artistes.
Alors, pour les ateliers créatifs, il y a des consignes, il est conseillé de réserver.
Oui.
Alors, est-ce qu'il reste encore des places ou...
Ouais, il en reste un peu, mais peu. Mais alors, ce qu'on conseille, c'est demander, si les personnes viennent uniquement pour les ateliers, d'appeler à l'office de tourisme du Pont de Montvert, des Cévennes au Mont-Lozère, et quand même de vérifier. Maintenant, on peut venir au festival sans faire non plus les ateliers pour une première découverte, et puis l'année d'après, s'inscrire bien en amont.
Oui, après peut-être il y a aussi des animations aussi qui sont ouvertes au public pendant ces 3 jours.
Oui, il y a une animation autour de la musique. Un groupe à Corleone va animer le village tout l'après-midi et une partie de la soirée. Et également demain tout l'après-midi et une partie de la soirée. Ensuite, ce soir à 18h, il y a un spectacle de danse jonglée sur le quartier de la Moline. C'est une compagnie de Lozère qui nous propose ce spectacle, la compagnie Faux Mouvement. Et il y a également des jeux pour les enfants qui sont au temple, des grands jeux organisés par une jeune femme d'Andus qui s'appelle Nathalie Pochet.
Voilà, plein de, il y en a pour tous les, pour tous pour les goûts, goût. Pour tout.
Et puis on peut peut-être rassurer aussi nos auditeurs, parce que souvent les gens disent le Pont de Montvert. Alors vous avez dit tout à l'heure une petite commune. Alors je vais quand même rappeler, mais je ne suis pas du tout vexée. Hein. C'est une très grande commune par sa taille, plus de 9000 hectares, hein, le Pont de Montvert, et avec plus de 20 villages et hameaux. Alors souvent les gens connaissent le bourg, mais ils ne connaissent pas en fait la commune du Pont de Montvert. Mais ils sont parfois inquiets sur les possibilités de pouvoir se garer. Donc moi je voulais rassurer les auditeurs, leur dire que. Toute l'équipe d'organisation a mis en place des bénévoles qui gèrent la circulation. On ne vous dit pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est facilité.
On a été accueillis quand on est arrivé. Voilà. On nous a dit, c'est bon, vous pouvez passer. Vous pouvez aller à tel endroit, etc.
Voilà.
Il n'y a pas de problème.
Donc, ça fonctionne, c'est bien. Et puis, il y a aussi des lieux pour se restaurer, boire, déambuler. Et en particulier, la buvette du festival. Alors, je fais un coup de pub parce que voilà, il faut équilibrer les opérations. Et ça passe souvent par de la nourriture. Et voilà.
Et vous, donc, vous retrouverez la présidente du conseil départemental à la
buvette.
Voilà.
En fait, ici, vous voyez, les élus sont maltraités, ils doivent travailler.
Alors peut-être pour, avant de terminer, on peut peut-être dire deux mots de ce qui sera aussi l'événement de la rentrée avec ce partenariat avec l'association italienne qui se poursuit à Milan sur l'exposition universelle.
Oui, l'association italienne a un lieu à l'exposition universelle qui leur est offert par, par la région du Piémont et la province de Tortona. C'est sur le pavillon des savoir-faire. Eux, ils sont sur l'exposition universelle donc depuis l'ouverture le 1er mai, je crois, il me semble, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Nous, nous y allons du 12 septembre au 26 septembre, puisqu'ils nous ont invités sur leur stand pendant 15 jours. Et il y aura plus particulièrement une manifestation avec le département
les 15 jours.
Les 15 jours, mais avec un événement sur le
pavillon France. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, grâce à ce partenariat avec l'association Artinfiera, qui n'est pas une association locale, hein, qui est une association nationale en Italie, donc on bénéficie de leur stand, hein, il faut rappeler aux auditeurs qu'un stand pour l'exposition universelle, tout petit, le premier prix, c'est 50 000 euros. Donc la Lozère n'avait pas les moyens, plus après tout ce qu'il y a derrière, de pouvoir se payer ce stand. Et puis, il fallait réserver bien en amont. Et quand on est arrivé au mois d'avril, c'était déjà, tout était plein et réservé. Donc du coup, il y a cette partie sur les savoir-faire où on est dans le pavillon italien sur les savoir-faire. Et puis, il y a également un pavillon France. Et donc là, le département, on a écrit au ministère des Affaires étrangères et on a une journée pour la Lozère. Alors, ils nous ont casés entre d'autres territoires, puisque là aussi, c'était pas prévu, mais ils ont réussi à nous dégager une journée. Et là, la thématique sont les produits de terroir. Ouais, et donc, en fait, ce sont des grands chefs.
Le thème de cette exposition universelle est autour
De l'alimentation. Et voilà, de l'alimentation saine, évidemment, enfin, etc. Et donc, du coup, la France a choisi, en fait, de travailler avec des chefs et des grands chefs pour certains. Et donc on fournit, alors il y a tout un processus là pour acheminer les produits vers l'Italie, et tout au long de la journée nos produits de terroir seront cuisinés, mis en valeur par ces chefs, et pour faire la promotion du département de la Lozère.
Voilà une belle opération effectivement, donc à la fois sur les produits et sur des créations et des créateurs.
Et qui est partie en fait d'initiatives locales sur les territoires et du coup en agrégeant un petit peu tous les moyens et les forces des uns et des autres, on arrive à avoir une belle opération pour le département.
Merci beaucoup d'être venu, bon festival.
Bonne journée.
Merci de nous avoir accueillis ici. Au revoir.
Ils développent leur projet en Lozère.
Partons à la rencontre de l'un des ambassadeurs Lozère Nouvelle Vie.
Alors voilà, on se retrouve dans cette deuxième partie de l'émission du Pont de Montvert. Alors cette séquence a été enregistrée hier à Florac et je suis avec Pierrette Agulon. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes quelqu'un de très connu finalement dans ce secteur. C'est en tous les cas, c'est ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous conseille généralement. Vous êtes une personnalité de l'accueil, on va dire, dans ce département. Alors, c'est une tradition familiale, si je comprends bien.
Oui, tout à fait. Donc, ma famille est originaire d'ici. Ma grand-mère avait créé l'entreprise donc hôtel-restaurant La Lozerette qui se trouve à Cocurès en 1926. Et donc ensuite, mon père en avait hérité et a fait petit à petit développer l'entreprise.
C'était une évidence pour vous de prendre la suite ou
pas? Lorsque j'étais adolescente, pas du tout. J'étais jamais portée volontaire pour prêter coup de main. Mais ensuite, après le bac, m'étais envisagée dans une école de commerce, donc j'ai pas réussi mon entrée, et donc c'était soit l'école de commerce ou soit l'hôtellerie.
Et donc ça a été l'hôtellerie.
Ça a été l'hôtellerie.
Et donc une formation en hôtellerie, comment vous avez...
J'ai fait un BTS de gestion hôtelière qui était sur Lyon, puisque dans ces années-là, il n'y en avait pas sur le département. Mmh. Et ensuite, j'ai travaillé, après ma formation, j'ai travaillé dans les Alpes. J'ai repris après petit à petit la maison l'été, tout en essayant d'augmenter le temps d'exploitation qui avait été réduit à un moment donné sur 2 mois.
Et c'est donc un investissement plutôt sur la partie hôtelière que sur la partie restauration, ou comment? Non, c'est la globalité, l'ensemble.
Oui, oui, c'est un hôtel-restaurant, donc c'est sûr qu'il faut engager la globalité de l'hôtel et du restaurant. Dans un premier temps, c'est sûr qu'au niveau de l'hôtel, il y avait beaucoup de restructuration à faire, remise aux normes, mettre au goût du jour. Et créer, pour moi l'important c'était d'essayer de créer un lieu, une atmosphère où on se sente bien chez soi, que ça soit simple et que ça réponde en même temps aux besoins de confort que les gens réclament.
Oui, c'est quelque chose ces besoins, ils ont beaucoup évolué ces dernières années. C'est pour vous une nécessité d'être toujours au goût du jour, d'être vraiment... vraiment de suivre aussi les attentes de vos clients.
Oui, ça c'est très important. Mais il y a quelque chose qui n'a pas évolué, c'est pour moi, qui était important, qui existait à l'époque de ma grand-mère, la notion de l'accueil. La notion de l'accueil et la notion de la sélection des produits que l'on travaille pour proposer sur la carte.
Alors justement, parlons-en de cette carte. Qu'est-ce que vous y mettez? Elle change souvent. Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit peu en appétit?
En appétit. Alors la carte, oui, elle évolue en fonction des saisons, à savoir du fait que nous sommes ouverts des rameaux à la Toussaint. On couvre 3 saisons et on s'adapte à la fois aux produits de la saison, aux viandes locales, aux poissons locaux. Et pour nous, ma philosophie, c'est en même temps de mettre en valeur d'abord le produit sans trop user
d'artifices.
Tout à fait.
Donc c'est du produit, du bon produit avec l'essentiel pour faire en sorte qu'il soit bon.
Voilà, c'est ce que je recherche.
Alors, quelle spécialité vous avez sur cette carte ?
Alors il y a une spécialité, une recette, un plat qui reste tout le temps, à savoir la truite Fario, simplement poêlée au petit lard comme nous le faisions à l'époque. La panade de morue, qui est aussi un plat très très local, je dirais, puisque c'est le seul poisson que l'on travaillait avant, dans la mesure où il n'y avait pas les réfrigérateurs et le moyen de conservation.
D'accord, donc vous avez gardé aussi ces recettes que, enfin, ou en tous les cas peut-être modernisées, mais des recettes qui étaient à l'origine, que vous avez connues à l'époque de vos grands-parents.
Tout à fait, la panade de morue en l'occurrence, c'est vrai qu'on l'a revisitée, mais elle garde la saveur d'antan.
Et alors j'imagine que vous avez mis aussi votre patte dans tout ce développement. Qu'est-ce que justement dans cette carte, qu'est-ce qui est votre petit plaisir? Quel est le plat que vous aimez le plus?
Moi, les plats que j'aime le plus, c'est souvent, sur le poisson, la panade de morue. Au niveau, en ce moment, ce sont les entrées qui sont tournées avec beaucoup de légumes frais, de marinades, de légumes ou autres. Parce que bon, il fait très chaud et qu'on a envie de manger.
On a presque envie de manger qu'une entrée, enfin qu'une très grosse salade. Et vraiment de rester dans la crudité. Effectivement, il fait très très beau. Finalement, vous n'avez pas pu imaginer dire je vais durablement faire. Vous nous avez dit tout à l'heure vous étiez parti en Savoie, mais la Lozère c'était pour vous important quand même.
La Lozère c'était important, mais bon, à 20 ans, moi j'avais envie de prendre du large et de voir autre chose. Et travailler à l'étranger, j'ai peu travaillé à l'étranger. J'aurais souhaité le faire plus pour me perfectionner un petit peu plus, surtout au niveau des langues. Ceci dit, mais divers voyages à l'étranger m'ont permis de voir autre chose et d'adapter la philosophie de d'autres pays, d'autres cultures à nous.
Bon, vous avez été sélectionné ambassadeur Lozère Nouvelle Vie. Alors, c'était en 2014, donc vous n'avez pas eu la démarche d'être candidat comme ceux de 2015. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Quel message vous auriez envie de faire passer en tant qu'ambassadeur de la Lozère?
Bien déjà, c'est un honneur d'avoir été spontanément choisi. Bon, je ne m'enorgueille pas, mais je suis ravie que je puisse donner un exemple aux autres pour dans ma manière de fonctionner.
Bon, il y a sans doute cette fibre de l'accueil, accueil touristique, mais qui est au cœur de votre maison et de l'ensemble de ce que vous proposez.
Oui, quelque part, oui. La fibre de l'accueil. C'est peut-être dans nos gènes, c'est la manière dont on nous a élevés. Je suis issue d'une fratrie de 5 filles, donc déjà on a appris le partage. Et à la maison, il y avait toujours une chaise supplémentaire pour le passant.
Alors, on est avec cette tournée Lozère Nouvelle Vie autour de la question des projets en Lozère, de l'installation en Lozère. Pour vous, quels seraient les conseils, vraiment les étapes clés pour des gens qui voudraient s'installer ou qui voudraient développer leur projet?
Les étapes clés, c'est sûr, choisir son créneau. Bon, le tourisme par ailleurs en est un. Avoir toujours dans sa tête l'idée de l'esprit et la démarche de qualité. Je crois que personne n'a envie de se tromper actuellement sur son choix lorsqu'il fait un choix d'aller au restaurant, d'aller à l'hôtel ou d'acheter un produit, d'acheter un vêtement. Et cette notion de qualité. S'installer à Lozère, il faut aimer notre pays, il faut avoir envie de le faire partager, ça c'est important. Savoir que l'hiver, on s'occupe différemment, mais l'animation malgré tout.
Vous nous avez dit que vous étiez fermé pendant l'hiver, mais quelles sont vos longues journées d'hiver?
Mes longues journées d'hiver,
c'est de
la préparation pour la saison. Bon, il faut être aussi, les réservations sont toujours en continu. Dans la mesure où il y a des travaux, il faut être vraiment sur place pour pouvoir gérer ça. On fait aussi de la charcuterie, voilà.
Puis c'est aussi se ressourcer peut-être un petit peu, c'est un métier qui demande de l'engagement aussi, pendant toute une saison, c'est un métier dur.
C'est un métier dur, quand on l'aime, ça paraît pas dur, parce qu'on se pose pas dans ce genre de questions en fait, on accepte toutes les contraintes que cela peut imaginer. Supposé, mais c'est sûr que c'est de longues journées.
Alors, peut-être pour terminer cet entretien, je vais vous poser, alors c'est une petite logique de portrait chinois, mais pour vous connaître aussi sous un autre volet avec des petits, un mot, et vous me répondez un peu du tac au tac. Mm-hmm. Votre animal préféré, celui dans lequel à la limite vous pourriez vous identifier un petit peu?
Le chat, comme dans le portrait.
Et oui, puisque vous avez dans le portrait qui a été réalisé par Régis Domergue, vous êtes avec un chat sur vos genoux, une très belle photo elle aussi. Vous pouvez vraiment toutes les découvrir, ces photos, pendant tout l'été sur la tournée Lozère Nouvelle Vie, et puis pour les 2015 sur les grilles du département, et pour les 2014 c'est au Vallon du Villard que vous pouvez les retrouver pendant l'été. Alors, une chanson peut-être pour votre
cuisine. La serveuse automate.
Ah oui. D'accord.
Mais je le rappelle souvent au niveau de mes assistants, par humour, quoi, pour les taquiner.
D'accord. Donc pour peut-être justement qu'ils quittent le côté automatique et qui donnent aussi tout leur tout l'aspect humain, c'est ça, de leur personnalité.
Tout à fait.
Votre lieu préféré en Lozère?
Alors justement, encore à midi, j'en parlais, je ne sais pas. Parce que je suis sur les sources du Tarn, je dis c'est le plus beau. Je suis sur les pièges des Bondons, c'est encore plus beau. Je suis sur le Cosmé-Jean, franchement, je suis vraiment très partagée. Et je suis sous le Braque, j'adore.
Donc toute la Lozère pour vous.
Oui, tout à fait.
Alors, peut-être une drogue favorite?
Ma drogue favorite serait le chocolat.
Ouais, vous n'êtes pas la première. Bon, le plat préféré, on l'a évoqué tout à l'heure. Alors peut-être votre loisir, parce que vous avez des semaines, j'imagine, bien remplies, des journées bien remplies, on l'a dit. Qu'est-ce qui vous détend au milieu de tout ça?
La lecture.
La lecture.
La lecture, parce que c'est ce qui... parce que je ne sais pas m'accorder du temps pour autre chose, pour faire du sport ou autre. Le tennis, j'aime bien, mais ça fait bien longtemps que je n'en fais plus. Donc la lecture, je dirais, c'est le plus pratique.
Alors peut-être un héros de fiction justement qui vous plaît particulièrement.
Eh bien, je dirais Fanny Stevenson, qui était la femme de Robert Louis Stevenson, qui était une femme exceptionnelle dans le style de aussi Ella Maillard à l'époque, des femmes avec caractère bien trempé et qui étaient des aventurières et à la fois très responsables et était vraiment la femme moderne.
Intéressant. Et peut-être pour terminer, un rêve. C'est pas facile.
Un rêve. Si, j'ai des rêves. Qu'on ait un peu plus de population dans notre pays, que pourquoi pas, pour nous, nos activités, qu'on puisse les ouvrir un petit peu plus longtemps. Ça, pour l'économie du pays, ça serait formidable, et pour l'ensemble, quoi, l'énergie du pays.
Donc à la fois plus de population, à la fois effectivement plus finalement continuer le développement de votre activité, voilà un peu le message. Merci en tous les cas d'être venu à nos micros pour parler de votre projet, nous donner aussi votre vision de cette installation en Lozère, de cet accueil qui est important pour notre département, comme vous venez de nous le dire à l'instant. Merci beaucoup.
Merci, c'était avec grand plaisir.
Bon été.
Merci.
Ils nous procurent des plaisirs authentiques avec leurs produits ou leurs créations.
C'est le moment de saliver avec un producteur.
Bien, troisième partie de cette émission, donc depuis la tournée Lozère Nouvelle Vie au Pont de Montvert. Et donc nous retrouvons Yves, Élie, Laurent, c'est ça ?
Yves, Élie.
Hein, voilà, je crois que tout le monde vous connaît sous vos deux prénoms.
Voilà.
Qui vient nous parler de produits locaux, hein, puisque c'est la règle dans cette troisième partie de l'émission. Et on va parler aujourd'hui de miel, de ruche. Peut-être vous allez pouvoir me dire, on m'a dit dans la préparation qu'il s'agissait de ruchetron. Alors, de quoi s'agit-il ?
Oui, eh bien, dans les Cévennes, et les Cévennes au sens historique du terme, c'est-à-dire qui remontent fort haut, hein, jusqu'au Puy-en-Velay, il y a la tradition des ruchetrons, comme dans d'autres régions d'Europe d'ailleurs, par exemple en Corse, et même aussi en Espagne. Une forme très traditionnelle d'apiculture qui est intéressante aujourd'hui, où nous nous interrogeons passablement sur l'avenir des abeilles et entre autres de l'apiculture aussi, puisque pour nous il s'agit avant tout des abeilles, et qui est en fait une source d'inspiration pour trouver un cheminement vers une apiculture durable. C'est ce à quoi nous travaillons de concert avec les institutions de Lozère.
Alors, un ruchetron, c'est-à-dire que la ruche, elle s'installe à l'intérieur d'un tronc, c'est ça ?
La colonie d'abeilles s'installe volontiers dans la nature, dans un tronc d'arbre ou dans une anfractuosité accueillante en général. Et dans les Cévennes, avec tous les arbres creux, notamment les châtaigniers creux que nous avons, depuis des temps immémoriaux, hein, puisque ça remonte à bien plus longtemps que l'importation de variétés de Chine par des moines, il y a des châtaigniers en Europe et plus particulièrement en Gaule depuis des milliers d'années. Donc depuis des milliers et des milliers d'années, nous avons des troncs creux avec des abeilles qui nichent dedans de la manière la plus naturelle du monde. Et certainement que ça a inspiré nos ancêtres pour constituer des ruchetrons, c'est-à-dire une concentration d'arbres creux verticaux, de tronçons de châtaigniers verticaux, dans laquelle ils ont installé des abeilles et donc créé des magnifiques ensembles architecturaux qui sont les ruchetrons.
Alors, c'est des tronçons, comme vous dites, hein, c'est pas directement dans l'arbre planté. Ça a été coupé, c'est ça ?
Oui, ce sont des tronçons d'arbres, ouais, qui ont été coupées par l'homme et évidées, et coupées, contrairement à ce qu'on pourrait penser, non pas dans des arbres pourris, mais dans des arbres encore relativement sains, puisque l'ambition à l'époque de nos ancêtres n'était pas de faire du court terme. Quand on construisait une ferme, c'était pour des siècles. Quand on faisait quelque chose, c'était pour des siècles et pour la descendance. Et donc ces ruches troncs creusées dans des châtaigniers relativement sains avaient une durée de 200 à 300 ans. Et nous trouvons encore dans les ruches troncs des ruches qui ont cet âge vénérable. Donc on est déjà là dans une dimension durable qui fait comme une sorte de clin d'œil à nos optiques européennes contemporaines.
Et donc la ruche est donc posée sur une pierre, c'est
une
ça
lose.
Ouais, sur une lose. Et une lose dessus aussi pour la fermer. Est-ce qu'il laisse un petit passage pour...
Non, alors juste, non c'est, en fait, ce qui est fascinant quand on se plonge dans cette tradition apicole, c'est de voir à quel point elle est subtile et adaptée à la biologie des abeilles. Il semblerait presque que nos ancêtres aient eu connaissance d'études sophistiquées telles dont on peut disposer aujourd'hui. En fait, il y a tout un système d'isolation. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de gain d'énergie, d'isolation thermique. Eh bien, ce système du rejetron est remarquable pour la gestion de l'énergie qu'il présente, c'est-à-dire accumulation et restitution de l'énergie solaire, accumulation le jour par la pierre, restitution la nuit, et puis tout un système de couches d'isolation multiples par le bois et par la pierre. Parce que, en fait, on a affaire à une sorte de cylindre creux. Globalement, la rejetron, c'est un cylindre creux. Et ce cylindre creux, à la base, repose sur de la pierre, qui est une bonne isolation, une bonne restitution aussi nocturne de la chaleur du soleil. Et sur le dessus, il y a un système de clés en trois parties, que vous pouvez venir voir au siège de l'association, au Pont de Montvert, entre autres. Et ces clés en trois parties permettent une fermeture assez hermétique de la partie supérieure du cylindre. Et notamment l'hiver, dans nos montagnes, c'est important que la chaleur ne fiche pas le camp par le plafond, en quelque sorte.
Bien sûr.
Et ce n'est que là-dessus que vient le chapeau rond du dessus, qui fait que la rejetron ressemble un peu à une sorte de champignon ou de bonhomme, qui fascine les enfants et les grands-enfants que nous sommes.
Alors, j'imagine que pour l'apiculteur que vous êtes, c'est un petit peu plus compliqué à utiliser comme standard de ruche, oui. C'est un
oui,
peu...
oui, oui. Alors, nous travaillons dans le cadre associatif donc de l'arbre aux abeilles à des opérations de restauration de ruchers, de repeuplement avec des abeilles. Alors ça fait l'occasion de journées qui sont organisées via Internet. Nous avons des volontaires de partout qui viennent pour découvrir cette approche. Et ça, je dirais que c'est plutôt un ensemencement. Un ensemencement technique pour aller vers autre chose. Parce que l'idée, c'est pas de prendre la rejetron à la lettre comme nouveau standard de ruche pour faire de l'apiculture. C'est de s'inspirer du modèle du rejetron pour ensuite, avec du matériel moderne, suivre cette voie qui est très proche de la biologie naturelle des abeilles. Et là, on est dans le contemporain, dans une utilisation contemporaine d'un patrimoine millénaire.
Et alors, est-ce que le goût change ?
Alors, le goût du miel change, comme le goût du vin change, selon la manière de travailler du vigneron ou de l'apiculteur. C'est évident, ou du cuisinier, oui. Hein, il y a une, ou du boulanger. Bien sûr qu'il y a une incidence. Ça ne tient pas tant au format même de la ruche qu'à la manière de conduire le troupeau d'abeilles, la colonie d'abeilles. Et là, dans ces approches traditionnelles, ce qui est très spécifique, c'est en premier lieu la sédentarité des colonies. C'est-à-dire qu'on laisse la colonie en un lieu, cette espèce de théâtre, amphithéâtre d'abeilles qui est un rucheron, on la laisse vivre là 365 jours par an. Alors déjà, il y a une incidence remarquable sur le milieu, au niveau de la pollinisation. C'est pourquoi, entre autres, nous sommes très largement soutenus par une fondation qui s'appelle Pollinis, qui travaille au niveau européen, parce que ça a une incidence positive sur les pollinisateurs. Et ensuite, ça va avoir une incidence sur le goût du miel, puisque les abeilles vont faire un miel assez traditionnel, dans le sens où on va avoir un amalgame de toutes les essences florales présentes en ce lieu, et qui sont différentes du lieu voisin, Et parce que comme chaque être humain, nous sommes là face à face avec des micros, nous sommes fort différents par plein d'aspects. Et ben c'est pareil, chaque lieu de la planète est différent du point de vue des compositions florales qu'il présente. Parce que nous avons par exemple ici un versant atlantique à Pont-de-Montvert, mais à Vialas qui est tout proche, c'est le versant méditerranéen. Le climat n'est pas tout à fait le même. Le sol va éventuellement varier, l'altitude est particulièrement dans les Cévennes, c'est d'ailleurs au pluriel des Cévennes. Il y a une multitude de micro-univers, de micro-biotopes qui trouvent une expression très différenciée au niveau aromatique, gastronomique dans les miels, pour peu qu'on laisse l'abeille œuvrer de manière naturelle, c'est-à-dire sédentaire, et qu'on récolte un peu comme le faisaient nos anciens, une à deux fois par an. Là, on va avoir des tranches de paysages spécifiques, en quelque sorte, dans le pot de miel.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le miel d'un terroir, d'un lieu très, 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 très finalement restreint.
Exactement. Exactement. C'est le lieu, c'est le miel de l'univers de ces abeilles-là. Et donc, on est éminemment dans la notion de terroir qui a un peu le vent en poupe aujourd'hui dans l'alimentation. Hein, autant les citoyens, en anglais, il n'existe pas la notion de terroir. C'est très, 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 très significatif. Et nous, en Europe, nous cultivons, et particulièrement en France, c'est vrai qu'on cultive cette notion de terroir parce que, du point de vue de la gastronomie, ben, c'est évidemment toute une palette de nuances, de découvertes possibles lorsqu'on sillonne la France. Alors, on a ça dans les fromages aussi, on a ça dans tous les domaines. Le vin, bien sûr, la viticulture, et notamment tout le courant des vins naturels dont notre association est très proche, a mis un peu à sensibiliser les gens à travers tous les bars à vin qui ont émergé en France. On a vu émerger comme ça tout un courant de sensibilité, une demande aussi économique de produits, de terroirs très spécifiques, très typés.
Et bon, avec c'est le goût finalement qui est aussi recherché, et donc derrière le terroir qui va avec. C'est...
Alors voilà, et ça, si on fait un petit voyage en Suisse, par exemple, on se rend compte que les Suisses, qui sont très doués pour les affaires aussi, eh bien, du point de vue agricole, ont beaucoup de choses à nous apprendre. Parce qu'en Suisse, il y a le fromage d'une vallée, et dans l'autre vallée, le fromage ne va pas être pareil. Et pareil pour le miel. En Suisse, les gens sont très, très avides d'avoir le miel d'une vallée, qui est différent du miel d'une autre vallée. Et il y a le miel du bas de la vallée, il y a le miel d'en haut de la vallée. Et toute une agriculture suisse est basée sur ce genre de nuances, fortement soutenu par le gouvernement suisse d'ailleurs.
Alors, on va en revenir un peu sur l'activité de votre association. Alors, on a parlé des ruches rétrons, mais je vois aussi abeille noire sur le
oui.
petit prospectus que
et
vous
oui.
m'avez
et
donné.
Oui.
Et alors, peut-être on peut parler un peu de cette abeille noire, parce que c'est une particularité aussi.
Très volontiers, parce que c'est le contenu et le contenant qui, en fait, pour le coup, vont ensemble. Parce que apiculture traditionnelle, ça veut dire aussi apiculture basée sur l'espèce locale, abeille noire. Alors, attention, par espèce locale, on a le grand honneur à Languedoc-Roussillon en général d'avoir été le territoire d'apparition de cette abeille il y a quelques dizaines de milliers d'années, à l'issue des grandes glaciations hein, qui ont vu la disparition des mammouths, des grandes migrations humaines et animales. Et bon, cette abeille noire qui s'est ensuite rediffusée avec le réchauffement dans toute l'Europe est l'abeille locale européenne en fait. Mais voilà, c'est une abeille remarquable par son endurance, sa sobriété, parce qu'elle n'a pas été mise au point par quelques spécialistes de la spécialité, elle a été mise au point par le grand laboratoire de la nature au cours de milliers d'années d'évolution avec des épreuves très rudes. Donc elle est porteuse d'un patrimoine extraordinaire de survie, de sobriété, et c'est donc elle que nos ancêtres ont utilisé en apiculture en Europe pendant, eh bien, on peut dire, des milliers d'années depuis l'âge néolithique. Il se trouve que cette abeille est en train de disparaître, et même complètement quasiment disparue du sol européen dans certains pays tels que l'Allemagne. Et en France, on a encore la chance d'avoir relativement des ressources. Et en collaboration avec une dizaine d'associations sur le territoire français, eh bien, nous travaillons à sensibiliser les pouvoirs publics à la nécessité de conserver ce patrimoine génétique qui est très très précieux. Alors ça ne veut pas dire de devenir des ayatollahs de l'abeille noire. Loin de nous cette pensée, l'extrémisme c'est une catastrophe pour notre société. Il ne s'agit pas de devenir extrémiste en matière animale, mais de donner à ceux qui veulent le faire les moyens d'opérer ce travail de conservation et de donner aux gens qui veulent travailler avec cette abeille écologique par excellence les possibilités de le faire. Voilà, donc nous sommes heureux de voir qu'il y a de la part des pouvoirs publics une grande sensibilité à ce sujet, et y compris en Lozère et en région, et même sur l'ensemble de l'Hexagone.
Mais c'est vrai qu'on sous-estime souvent le rôle de l'abeille dans la nature.
Mais oui, tout à fait, parce que nous, êtres humains, avons un peu la vanité de tout gouverner. Nous avons l'impression que c'est notre technique qui va tout faire. Or, dans l'agriculture en général, on se rend compte qu'il y a un facteur qui est primordial et qui nous échappe, mais complètement. C'est ce fameux ciel dont les Gaulois avaient si peur qu'il leur tombe sur la tête. Eh bien, c'est vrai que les changements climatiques, la météo en général, sont primordiaux. Et ensuite, il y a ce qu'on a en langage moderne, on appellerait le matériau génétique, c'est-à-dire le vivant. Le vivant qui est l'abeille ou qui est le cheval de Camargue, l'abeille noire ou le cheval de Camargue, qui par ses caractéristiques de sobriété, son patrimoine héréditaire, fait que les choses vont fonctionner plus ou moins bien, plus ou moins facilement et plus ou moins dans la durée. Parce qu'on est très très dans cette interrogation aujourd'hui en apiculture, quand on a connu des taux de mortalité catastrophiques, qui ne sont pas uniquement dus aux pesticides, certes aux pesticides, mais à bien d'autres facteurs, on se rend compte qu'il faut rechercher des voies durables.
Alors justement, ces voies durables, c'est le sujet d'une manifestation que vous organisez à l'automne. Hein.
Oui, tout à fait.
Alors, vous pouvez nous dire un petit peu en quoi ça va consister ?
Oui, avec grand plaisir. Bien, pour la deuxième année, nous allons faire une fête de l'abeille noire, qui est en fait un festival de l'apiculture durable et plus généralement de voies agricoles traditionnelles et innovantes. Alors cela signifie pendant 2 jours des conférences, par exemple sur l'homéopathie appliquée à l'apiculture, des conférences qui ont lieu dans le temple de Pont-de-Montvert et aussi dans les cafés du village sous forme de café philo. Pendant 2 jours, ces conférences sont gratuites, c'est-à-dire en fait offertes par nos collectivités. Il n'y a rien de gratuit dans le vivant, hein, contrairement à certaines visions hyper modernes. Non, il n'y a rien de gratuit, c'est grâce au soutien de sponsors privés tels que Polynix que j'ai cité, ou les vins Jean-Luc Colombo, et bien d'autres, de mécènes anonymes, et surtout des institutions du Conseil Général, de la région, de l'Europe, du PNC, qu'on peut mettre en place ce genre de manifestation et offrir des conférences de très haut niveau, accessible à tous, gratuitement. Et puis ça s'accompagne d'un espace rencontre gastronomique où viendront bien des gens qui travaillent de manière traditionnelle et innovante. Alors, pas seulement en apiculture, mais par exemple sur les figues, ou alors en viticulture, ou alors qui cultive, je pense à un collègue de notre association qui cultive des shiitakes, des champignons japonais qui ont toutes sortes de vertus diététiques et même religieuses au Japon, dans les Cévennes. Voilà, pour donner à voir d'autres axes possibles de travail. Par exemple, parce que le dit champignon est très prisé par les Japonais qui n'osent plus le manger lorsqu'il est cultivé chez eux parce qu'il est immédiatement radioactif. Alors vous voyez que dans notre terroir ici, on a des opportunités peut-être, je dis bien peut-être, à vérifier, mais de développement d'autres axes de travail qui pourraient aider à maintenir des populations dans nos campagnes et peut-être une diversification des activités agricoles qui serait profitable.
Mais merci beaucoup de toutes ces explications. Je crois qu'effectivement, c'est un message qui est important aussi de porter, d'avoir ce regard sur le produit, sur le lien à la nature, les pratiques durables. Et en tous les cas, merci de votre témoignage. Peut-être vous pouvez nous donner les contacts pour retrouver votre association.
Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez nous retrouver bien tout simplement soit au Pont de Montvert dans la Grand Rue, mais bien plus largement sur la planète en allant sur Internet et en cherchant l'arbre aux abeilles. Et l'arbre aux abeilles vous invite tous à venir à la fête de l'abeille noire le 7 et 8 novembre prochain à Pont de Montvert.
Voilà, tout est dit. Merci beaucoup, bonne journée.
Bonne journée à vous tous.
Merci, au revoir.
Écoutez.
Voilà, cette émission est terminée. Nous étions donc au Pont de Montvert. Vous pouvez nous y rejoindre pendant toute la journée. Retrouver la tournée Lozère Nouvelle Vie sur les quais. Voilà, il fait un petit vent très agréable, un peu d'un très beau soleil. Donc, vous n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous pourrez réécouter les interviews de cette émission dans la matinale de mercredi matin. Et puis, vous pouvez également suivre la tournée sur le blog tournée-lozère-nouvelle-vie.tumblr.com. Et bien sûr, nous nous retrouverons pour la prochaine étape de cette tournée à Lavey-Narmand mercredi. Et donc voilà, dès 14h pour cette émission depuis Lavey-Narmand. Bonne journée.
L'émission que vous venez d'entendre a été présentée par Guillaume Delorme depuis la tournée estivale Lozère Nouvelle Vie.
Une émission de 48 FM en partenariat avec le département de la Lozère.